Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série sur la thématique de l'espérance. Et toujours avec moi, eh bien, Philippe Délé, bonjour.
Bonjour Gaël, et je voudrais donner le bonjour à tous nos auditeurs.
Alors je rappelle, vous nous accompagnez tout au long de la découverte du récit biblique et nous avions abordé depuis quelques émissions la thématique d'une prophétie et de prophétie, j'ai envie de dire presque en prophétie. Nous avons dit, on va tout de même rappeler des règles. C'est ce que nous avions fait lors de notre dernière émission. On l'avait terminé en rappelant des règles qu'il serait bien de respecter pour toute personne qui désire étudier les prophéties, Philippe.
Eh bien oui, et puis pour tous ceux qui nous accompagnent et qui nous écoutent depuis le début, et pour vous redonner le ton, si je puis dire, je vais réitérer l'une d'entre elles. Je cite, « Les Écritures doivent s'expliquer d'elles-mêmes puisqu'elles sont une règle en elles-mêmes. Si je dépends d'un enseignant pour me les exposer et qu'il devine leur signification ou qu'il désire l'expliquer en fonction de sa croyance ou selon sa propre sagesse, alors c'est son hypothèse, son désir, sa croyance ou sa sagesse qui sont ma règle et non la Bible. » Et je rappelle aux auditeurs qui désirent connaître ces règles qu'ils peuvent les trouver sur Internet sous l'intitulé « Règles d'interprétation » par William Miller, qui, je vous le rappelle, était d'origine baptiste, né à la fin du XVIIIe siècle.
Alors sur la base de cette règle que nous venons de lire, je vous propose de revenir à la prophétie. Nous avions vu que le texte de la statue du songe du roi de Babylone était général, une vision donc globale. Et vous nous aviez dit que plus loin, dans le texte toujours de la Bible, une autre prophétie allait se focaliser davantage sur certains points. Découvrons ça avec vous.
Alors nous sommes sous le règne de Belshazzar, qui est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Donc, quelques années plus tard, après la vision de la statue. Et cette fois, c'est le prophète lui-même qui reçoit une vision. Dans son chapitre 7 et verset 1, il nous dit ceci. « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « J'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Et ici, c'est Daniel lui-même qui raconte sa vision, dans le chapitre 7 au verset 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. » Et un peu plus loin, au chapitre 8, verset 15, nous comprenons que c'est l'ange Gabriel qui lui donne l'explication. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'oulaye. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision ». Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, je tombai sur ma face. Il me dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. »
Pour revenir justement sur cette vision, nous avons là trois éléments, donc quatre vents, la grande mer et les quatre animaux différents. Pour respecter la règle que nous avons donnée tout à l'heure, j'imagine que nous devons, pour chacun de ces éléments, trouver une explication dans la Bible.
Oui, vous avez raison Gaël, le langage des Écritures doit être pris dans un sens littéral. Mais ici, nous avons affaire à un langage non littéral, mais figuré ou symbolique. Donc, pour respecter cette règle, nous devons expliquer ce symbolisme par le langage littéral de la Bible. J'explique. Prenons le verset 3 du chapitre 7. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Et que nous dit la Bible? Réponse au verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre.
Et puis nous avons lu aussi qu'il y avait quatre vents des cieux.
Oui, et le prophète Jérémie nous donne l'explication dans son chapitre 25 au verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Alors, dans la Bible, les vents représentent les guerres, les luttes, les conflits politiques. Les agitations politiques s'élèvent des royaumes et les font tomber, tout comme le vent qui souffle en tempête sur les mers et qui les agite.
Alors justement, puisque vous nous parlez de mers, que représentent les mers dans la Bible, ou en l'occurrence, pour notre prophétie, la grande mer?
Nous avons déjà une réponse dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, verset 15. Je vous cite. « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Et nous retrouvons aussi une explication dans le chapitre 8 du livre d'Isaïe, au verset 7. « Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, et il débordera et inondera, et il atteindra jusqu'au cou. » Il s'agit donc des foules et des nations irritées. Résumons ce que nous savons. Les animaux ou bêtes représentent des rois ou des royaumes. Les vents, des conflits politiques ou des guerres. Et les eaux représentent des foules, des nations irritées. Maintenant, nous pouvons aborder l'explication de cette vision prophétique. Il y a encore une question que nous devons nous poser. Quand cela commence-t-il et quels sont les royaumes représentés par ces bêtes? Alors, lisons un peu plus loin le verset 3 et 4 de ce chapitre 7. Je vous cite. « Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. » Rappelez-vous de la vision de Nebuchadnezzar 65 ans plus tôt. C'est celui de la statue. Et Daniel vit encore sous ce royaume qui est la tête d'or. Celui de Babylone. Et vous verrez qu'il y a des similitudes entre les quatre métaux de la statue de Nebuchadnezzar et les quatre animaux de la vision de Daniel.
Alors, pourquoi l'ensemble de la prophétie et toutes ces visions n'a pas été donnée d'un seul coup?
Et comme je vous l'ai dit, cette première prophétie de la statue brosse un tableau d'ensemble, mais elle décrit seulement l'aspect politique du pouvoir mondial. Lorsque des animaux entrent en scène, si je puis dire, les visions se focalisent sur les caractères de ces pouvoirs politiques qui se sont révélés à travers les différents types d'animaux. Et comme il s'agit de la prophétie donnée par Dieu, les différents gouvernements terrestres sont présentés en relation avec la vérité et le peuple de Dieu à travers les siècles. Donc, pour faire plus simple, les prophéties abordent exclusivement l'histoire du peuple de Dieu confronté à divers royaumes, et ceci à travers les siècles.
Donc pour l'instant, pour en revenir à la vision prophétique de Daniel, nous avons affaire à un lion avec des ailes d'aigle.
Oui, alors regardons ce que nous dit la Bible sur ce type de lion. Je vous cite Jérémie dans son livre, chapitre 4, verset 7. « Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées et il n'y aura plus d'habitants. » Et au chapitre 50, verset 17, il est dit ceci. « Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. » Et pour les ailes d'aigle, Habacuc, il est écrit ceci. « Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays. » pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Voyez-vous, par ces symboles, il nous est facile de comprendre que le royaume de Babylone était tout comme le lion d'une grande force. Et comme l'aigle, je vous rappelle, qui peut atteindre jusqu'à 120 km/h en piqué, elle était rapide dans ses conquêtes. En plus, l'archéologie a démontré par les vestiges découverts que le lion ailé était un symbole de Babylone. Mais relisons la dernière partie du verset 4. « Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Nebuchadnezzar, le grand-père, était un conquérant, un roi païen qui a vécu une expérience spirituelle que nous pouvons découvrir dans le chapitre 4 de ce livre de Daniel. De cette expérience spirituelle, le roi a vécu une réelle conversion au Dieu d'Israël, d'où cette transplantation cardiaque, c'est-à-dire qu'il a hérité d'un nouveau cœur. Mais ce n'est pas le cas du petit-fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Lui ne se précipitait plus sur sa proie comme au temps du grand-père, d'où les ailes arrachées. Et nous constatons le déclin dû à la richesse, au luxe, aux orgies qui ont affaibli le courage de cette nation. Par contre, son cœur d'homme est un cœur plus craintif, plus faible et défaillant. Le fait d'être trop sûr de lui-même et n'étant plus sur ses gardes, cela a permis aux troupes de Cyrus de conquérir Babylone.
Et ainsi ce fut la chute de Babylone, la fameuse tête d'or du rêve du grand-père. Malheureusement, cette émission touche déjà à sa fin, mais nous aurons le plaisir, j'imagine, de découvrir la signification des autres animaux lors de nos prochaines émissions, Philippe.
Avec grand plaisir.
Alors à très bientôt.
À bientôt.